session de théologie à Rimont, le 3 novembre 1991. 13e cours, 9h30, Père Marie-Dominique Philippe, le Christ.
La France sonore. Vous comprenez que le mystère de Jésus, pour notre vie chrétienne, c'est le centre, au sens le plus fort, et ce qui finalise tout. L'Église est le complément du Christ. L'Église est ordonnée au Christ, et l'Église c'est nous. Nous formons une petite Église ici. Dès qu'un certain nombre de chrétiens se retrouvent ensemble et cherchent la vérité, c'est le mystère de l'Église, et cherche à s'aimer. Donc, c'est au cœur de toute théologie. Si je regarde la révélation, tout est ordonné à Jésus. Prenez le début de l'Épître aux Hébreux. C'est tellement éclairant. Dieu a parlé de multiples manières, et au terme, le Christ. Il faut tout en venir, ce début de l'Épître aux Hébreux. Parce qu'il nous montre bien, voyez, dans une perspective de théologie de l'économie divine, ce que demande Vatican II, reprendre toute la théologie dans cette perspective, le Christ au sommet. Et d'une certaine manière, tout le mystère de la révélation et de la parole de Dieu prend une nouvelle signification avec Jésus. On peut parler du Christ au point de vue de l'Église. C'est au cœur de tout le cheminement de l'Église. Regardez l'Apocalypse. Ce qui est dit au début de l'Apocalypse. Cette vision, cette correction des sept Églises. C'est important tout le temps. Et on voit que le Christ est au milieu. Saul, Saul, pourquoi persécutes-tu? Persécuter l'Église, c'est persécuter le Christ. Ce qui veut dire que le Christ est présent dans l'Église. Présent d'une présence mystique, cachée, d'une présence de la tête, de la présence de la pierre angulaire, la présence de l'époux. Et toujours ces comparaisons qui doivent rester auprès de nous pour que nous comprenions ce qu'est Jésus. Il est tête, il est le cep, il est la pierre angulaire et il est l'époux. Et comprendre que ces comparaisons, si on les prend matériellement, elles s'opposent pour nous faire comprendre ce mystère central de Jésus. Et c'est vrai que l'Église ne vit que par le Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et l'Église proclame ça tout le temps. Le chrétien, dans la mesure même où le chrétien comprend que tout ce qu'il fait de bien, il le fait avec Jésus. Ce qu'il fait de mal, il le fait sans le Christ. C'est important de comprendre cette présence active du Christ qui nous saisit. Au plan mystique, dans une théologie mystique, on peut dire que le mystère de la croix glorieuse, la blessure du cœur et la résurrection nous font comprendre comment Jésus est le Sauveur qui nous donne la vie divine, une vie d'amour. Il est pour nous la lumière du Père. Et il pour nous l'amour. Et la grande révélation d'amour se fait à la croix. Et Jésus, à la croix, vit des béatitudes évangéliques. Et il nous appelle à vivre ce même mystère. Je crois qu'il faut toujours bien comprendre que cette réflexion que nous faisons sur le mystère du Christ, nous pouvons la faire de diverses manières. Je voudrais, avec vous, vous faire comprendre la position de Thomas d'Aquin, parce qu'elle est particulièrement difficile. C'est pour ça que je m'attaque à ce qu'il y a de plus difficile. La théologie biblique, si on lit l'Écriture, on arrive à s'ébrouiller. C'est un peu intelligent. La théologie mystique, si on aime profondément Jésus, on comprend. La théologie de saint Thomas, qui est originale, elle est très originale. Le père Chenu aime toujours de dire « Saint Thomas est révolutionnaire ». J'aime pas beaucoup l'expression, mais je vois ce que ça veut dire. C'est-à-dire que saint Thomas a apporté de fait quelque chose de très audacieux. De terriblement audacieux. C'est pour ça qu'il est si critiqué. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de peine de le comprendre aujourd'hui. Mais l'Église continue de dire que Thomas d'Aquin demeure pour nous comme l'axe d'une pensée théologique qui cherche la vérité plénière. Je crois qu'on ne peut pas faire une vraie théologie biblique, une vraie théologie mystique, une vraie théologie de l'Église si on n'a pas cet axe. Théologie scientifique, voilà comment saint Thomas l'appelle. C'est-à-dire une théologie qui veut mettre en pleine lumière la coopération de l'intelligence au mystère de la foi. Autrement dit, ce qui nous est révélé est suprêmement intelligent. L'intelligence ne supprimera jamais la foi. Ce serait une tentation, la grande tentation hegélienne. N'oubliez pas, la tentation hegélienne de Hegel, le grand théologien luthérien, comme dit Karl Barth, le plus grand théologien luthérien. N'oubliez pas, ce témoignage est quand même très intéressant. Karl Barth est un grand théologien protestant. Quand on a vécu en Suisse pendant de nombreuses années, on sait combien Karl Barth a une très grosse influence à Bâle et en Allemagne. Karl Barth n'hésite pas de dire que Hegel est le plus grand théologien luthérien et que peut-être Thomas d'Aquin est supérieur. Je dis ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de théologiens aujourd'hui qui diraient ça. Alors c'est intéressant, c'est un protestant. Donc on le salue avec particulièrement de respect, n'est-ce pas? Et donc c'est intéressant de voir ce témoignage. Il dit ça par rapport à la très sainte Trinité. Et je crois qu'on peut le dire par rapport au mystère du Christ. Thomas d'Aquin veut donc, et il est conscient de cela, il est conscient qu'il est serviteur de l'Église et qu'il fait quelque chose qui n'a pas encore été fait. Mais toute son intelligence métaphysique, de sagesse humaine, au service de la foi, pour montrer que toutes les objections qu'on fait au mystère de la foi dégringolent. Ne tiennent pas. On tombe sur quelque chose qui dépasse infiniment ce que notre intelligence humaine peut dire. C'est évident. La transcendance du mystère de Dieu. La transcendance du mystère du Christ. que par le fait même, nos objections proviennent tout simplement d'une attitude anthropomorphique. On projette sur le Christ notre psychologie. On projette sur le Christ ce que nous ressentons. Mais ce n'est pas le mystère. On oublie le mystère. N'oubliez pas que ces objections ont été reprises avec une très grande violence avec le philosophe Merleau-Ponty. Quand Merleau-Ponty a été reçu au Collège de France, il a fait un grand cours inaugural, selon les coutumes, et il a dit ouvertement que pour lui, le mystère du Christ était inacceptable parce qu'il mettait Dieu en contradiction avec lui-même. Autrement dit, il a repris toutes les objections que saint Thomas avait déjà dit. Mais il n'a pas vu les réponses de saint Thomas. Parce que je crois qu'il ne le connaissait pas beaucoup. Du reste, pour quelqu'un comme Merleau-Ponty, ça n'aurait pas été commode de lire saint Thomas. C'est vrai que c'est difficile de lire saint Thomas. C'est très très difficile. C'est pour ça que je ne le lis pas avec vous, parce que vous vous endormiriez. Alors je ne le lis pas avec vous. L'expérience constamment avec des groupes que je connais depuis longtemps. Alors, on essaie de les faire comprendre ce que c'est penser, la philosophie, la réflexion, la foi. Puis dès qu'on prend saint Thomas. Parce que c'est vrai, c'est très ardu saint Thomas. Alors quand vous êtes en face de ceux qui critiquent saint Thomas, dites-leur, saint Thomas est un saint. Il avait une foi contemplative étonnante, comme très peu l'ont eu. Il était remarquablement intelligent. Il a eu comme maître Albert le Grand, qui était considéré comme le grand de son temps, Albert le Grand de Cologne, un Européen, et Thomas d'Aquin, Européen aussi, mais pas des mêmes régions. C'est l'Europe qui s'est retrouvée avec Albert le Grand et Thomas d'Aquin, un phénomène extraordinaire. Et Albert le Grand, devant Thomas d'Aquin, disait le bœuf muet. Qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il dira quand il commencera à parler? Parce qu'un jour, après un cours particulièrement difficile, il avait entendu Thomas d'Aquin expliquer étudiant, expliquer le cours à un autre qui était à côté de lui qui n'avait rien compris. Et Albert Legrand était obligé de reconnaître que ce que disait Thomas d'Aquin était beaucoup plus clair que ce qu'il disait. Et aller plus loin. C'est très beau ça, du reste. Le maître et son disciple. Et quand Thomas d'Aquin était attaqué à Paris, Albert Legrand est venu, malgré son âge, le défendre. Tellement il l'aimait. Alors, pour Thomas d'Aquin, le Christ, pour réfléchir sur ce mystère, ça implique qu'on ait mis toute son intelligence pour découvrir le mystère de Dieu. L'intelligence humaine est capable, par elle-même, à s'élever jusqu'à l'affirmation de l'existence de Dieu et de contempler Dieu. Et la foi nous permet de découvrir dans ce mystère de simplicité absolue de l'être premier, acte pur, de découvrir cette fécondité éternelle dans la contemplation même de Dieu, le mystère du Verbe, le mystère du Fils et le mystère du Père et du Fils dans cette inspiration de l'Esprit Saint, le mystère de la très sainte Trinité. saint Thomas montre comment Dieu a voulu créer. Et les deux grandes activités divines, si j'ose dire, la contemplation pure, féconde de Dieu, et cette volonté de Dieu, dans sa bonté, de réaliser un monde particulier d'être créé, d'esprit créé d'abord. Et au terme de la création, l'homme et la femme. Et le théologien ensuite étudie l'homme à l'image de Dieu, imago Dei, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et en raison du péché, saint Thomas a montré les convenances de l'incarnation. Oui, c'est une des choses qu'on a beaucoup critiquées à Thomas d'Aquin. Avant la dernière guerre, celui qui enseignait à l'Institut catholique de Paris critiquait ouvertement cette position de saint Thomas. Mais ça, elle n'est pas chrétienne. Parce qu'on confondait ce que représente l'attitude de foi. Le chrétien adhère au Christ comme fils bien-aimé de Dieu. Et l'attitude du théologien, faut bien distinguer les deux. Le théologien met son intelligence au service de la foi. Il est croyant. Il veut rendre témoignage de sa foi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, où on est au milieu d'un monde qui la plupart du temps rejette ou oublie le mystère du Christ, tout chrétien éprouve le besoin de faire de la théologie. Tout chrétien intelligent, c'est pour ça que vous êtes là, non ? Tout chrétien intelligent éprouve le besoin de faire de la théologie. Pour mettre son intelligence au service de la foi. C'est ça la théologie. Donc, à ce moment-là, on doit comprendre, puisque la foi nous le dit, que le mystère du Christ, c'est la nature divine et la nature humaine, unie dans la personne du Verbe de Dieu. Les grands conciles christologiques, Chalcédoine surtout, affirme que le mystère de l'union hypostatique, donc il s'agit de comprendre ce que c'est, nous allons revenir là-dessus, que le mystère de l'union hypostatique, qui fait que deux natures, la nature divine et la nature humaine, sont unies personnellement dans le mystère du Verbe de Dieu. Sans se confondre. C'est ça que Merleau-Ponty ne comprend plus. Sans se confondre. Dieu peut faire ça. Et de fait, Dieu l'a fait. Mystère d'incarnation. Et que ce mystère d'incarnation est en vue de la rédemption. C'est la première chose que Thomas d'Aquin veut bien montrer. Parce que notre regard de croyants sur le Christ est différent. Si on regarde Jésus comme l'achèvement de la création, on regarde Jésus comme sauveur. De fait, ces deux visions, je ne dis pas ont toujours existé, mais quand même, il y a toujours eu un tout petit peu des hésitations. On passe de l'un à l'autre. Alors, c'est important de comprendre que tout de suite, saint Thomas recherche les convenances de l'incarnation. C'est-à-dire saisir autant qu'on le peut, dans le regard de la sagesse de Dieu, le lien qui existe entre l'incarnation et la rédemption. Entre le petit enfant Jésus, né à Bethléem, entre les mystères de joie, les mystères de la vie apostolique de Jésus, les mystères de conquête, si j'ose dire, et puis le mystère de la croix. Tel est le lien. Alors, saint Thomas, dans une question qui est très belle, ça on peut la lire, c'est lisible, c'est très lisible. Et je crois que c'est la première chose qu'on devrait faire. C'est lire cette grande question, la première question de saint Thomas dans sa tertia pars, question 1. Les convenances de l'incarnation. C'est une très belle question et relativement facile. Autrement dit, le mystère de l'incarnation relève de la bonté de Dieu. Une bonté tout imprégnée de lumière, de sa sagesse. Le mystère de l'incarnation, c'est Dieu qui veut aller le plus loin possible dans la communication de son amour. Par rapport à l'homme. Oui, c'est très grand de tout de suite ramener le mystère de l'incarnation à la bonté. Et là, saint Thomas s'appuie sur saint Jean Damascène. C'est intéressant, puisque saint Thomas vient, ne l'oubliez pas, peu de temps après la séparation entre l'Orient et l'Occident. Donc, la théologie de saint Thomas s'appuie toujours sur les pères grecs comme sur les pères latins. C'est le théologien de l'unité, si vous voulez. Et c'est intéressant de voir que tout de suite, quand il s'agit de montrer la convenance première, radicale de l'incarnation, s'appuie sur saint Jean Damascène. Saint Jean Damascène est l'analogue. L'analogue de Thomas d'Aquin pour le monde oriental. C'est un grand théologien qui fait une certaine synthèse, très différente de celle de saint Thomas, beaucoup moins pénétrante au point de vue intellectuel, mais très belle. On fait un pèlerinage à saint Jean Damascène. Quand on va à Jérusalem et qu'on va à Saint-Saba, on voit le tombeau de saint Jean Damascène, qui est chez les orthodoxes. La bonté, c'est de se communiquer le plus qu'on peut. Or, Dieu est la bonté souveraine. Donc, il est normal que Dieu, qui a créé, veut aller le plus loin possible de sa communication. Vous voyez, ça rejoint d'une certaine manière ceux qui disent que l'incarnation est la clé de voûte de la création. Parce que je pourrais très bien dire, saint Thomas disant ça, bon, le sommet de la communication de Dieu à la créature, c'est l'incarnation. Il ne pouvait pas se communiquer plus que de s'incarner. C'est-à-dire de prendre la nature humaine dans sa plus grande intimité. La plus grande intimité de Dieu, c'est de faire que la nature humaine subsiste dans le Verbe de Dieu. Que la nature humaine soit fils bien-aimé du Père. Que la nature humaine, par le Christ, soit Dieu. Et c'est vrai, il ne pouvait pas davantage attirer à lui la nature humaine. Le Christ a une nature semblable à la nôtre. Il est homme. Vous voyez, tout de suite, Thomas d'Aquin commence par ce point de vue de la bonté. Ensuite, il se pose la question, ceci, c'est très vrai, ça on enlève tous les obstacles. Dieu peut faire ça. Parce qu'il est la bonté souveraine. Il l'a fait à cause de quoi? Alors là, on regarde la volonté de Dieu. On précise. Pourquoi s'est-il incarné? Quelle est la finalité de l'incarnation du côté de Dieu? Et saint Thomas dit tout simplement, en bon théologien, quand on touche la volonté libre de Dieu, nous ne pouvons la connaître que par la révélation. La révélation nous révèle les secrets de Dieu et les volontés propres de Dieu. Or, dans toute la révélation, c'est le mystère du salut, du Sauveur, qui est annoncé en premier lieu. Le Messie. On annonce un Sauveur. Tout de suite, regardez la Genèse. Voyez bien, à peine la faute commise, Dieu qui vient punir Adam et Ève et le serpent annonce qu'il y aura un Sauveur. Dieu n'a jamais laissé l'humanité dans la détresse. Même après la faute première, il a tout de suite tendu la main. Il a tout de suite dit, je viendrai à ton aide. Tu as péché, tu emporteras les conséquences, c'est normal. Parce qu'il nous traite en homme. Il nous traite non pas comme des enfants qui ne sont pas responsables, il nous traite comme des gens responsables. Donc avec toute notre dignité personnelle, c'est normal que nous payions les conséquences. Mais je serai là. Donc il nous montre qu'il sera là comme Sauveur. Et si vous regardez à travers toute l'Écriture, vous voyez que toujours le Sauveur est promis. À tel point que ce Messie, selon toute une tradition dans l'Ancien Testament, sera considéré comme le libérateur du peuple d'Israël. Et c'est vrai, il y a des textes qui semblent bien indiquer qu'il sera un libérateur merveilleux. Quand vous voyez dans Isaïe les promesses de celui qui doit venir, la Vierge enfantera, elle enfantera le Sauveur, elle enfantera celui qui viendra. Et quand vous entendez le vieillard Siméon, gloire d'Israël, le petit qui est arrivé, le Messie, gloire d'Israël, lumière des nations. Donc, une vision du Messie glorieuse, triomphale ou triomphante. Le Messie, c'est celui qui vient libérer son peuple. Alors, s'il vient libérer son peuple, il vient le libérer de tous les jougs extérieurs, temporels, politiques, pour lui redonner sa liberté, pour en faire la nation la plus grande qui soit, la plus parfaite qui soit. Et à côté de cette tradition, il y a une autre tradition dans Isaïe. Le serviteur douloureux. Le serviteur condamné à mort. Comme une bouche, comme un mouton qu'on conduit à l'abattoir. Il y a toute cette tradition de l'agneau. Faut pas oublier ça, c'est très très important, vous voyez. Parce que si de fait, dans la théologie, vous retrouvez ces deux traditions, elles existaient déjà dans l'Ancien Testament. Il y a la tradition du Christ qui vient apporter au peuple d'Israël la gloire terrestre. Et la tradition beaucoup plus intérieure du Messie qui est l'agneau, qui porte l'iniquité du monde. Alors ça donne toute sa force au témoignage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Jean-Baptiste se met tout de suite dans la tradition intérieure du serviteur douloureux. Il vient porter pour tous les hommes, pour tous les pécheurs, tous les péchés des hommes, et réparer. De fait, c'est pour ça que le Christ s'appelle toujours le Fils de l'homme. C'est la révélation de Daniel, du prophète Daniel. Pour ne pas dire Messie, ce serait équivoque. Alors il reprend exprès cette expression, Fils de l'homme. Saint Thomas donc se pose la question, dans la lumière de la révélation, on doit dire que le Christ vient pour sauver les hommes. Il se pose donc la question, si les hommes n'avaient pas péché, est-ce que le mystère de l'incarnation aurait existé? Voilà la grande question. Qui a été reprise après de multiples manières, que saint Thomas pose. Si l'homme n'avait pas péché, est-ce que le mystère d'incarnation aurait existé? Et saint Thomas répond, dans la lumière de la révélation, nous devons dire que le Christ est venu pour réparer la faute. Quand a condamné ceux qui disent que le Christ serait venu même s'il n'y avait pas la faute, saint Thomas dit, ce n'est pas très probable, mais on ne peut rien dire. C'est très respectueux, vous voyez. C'est intéressant, du reste. C'est beaucoup plus les disciples de saint Thomas qui sont beaucoup moins respectueux. Mais saint Thomas est d'un très grand respect de maintenir que de fait, en raison de la bonté de Dieu, on peut très bien dire oui. Dieu aurait pu terminer la création par ce chef-d'œuvre de l'incarnation. Mais étant donné la révélation, on doit dire pratiquement que le Christ est venu comme sauveur. Et alors c'est à partir de là qu'il montre qu'il est venu comme sauveur pour réparer en premier lieu la faute première, le péché originel. Ce péché qui touche toute l'humanité. Et pour porter toutes les fautes personnelles, il est venu pour satisfaire, réparer. Et il est venu pour réaliser une nouvelle alliance d'amour, plus parfaite que la première. Parce que toujours, quand Dieu permet une bêtise, une faute, Dieu la permet pour un plus grand bien. C'est ça que nous avons beaucoup de peine à comprendre. Alors là, pour saint Thomas, c'est, j'allais dire, un principe général du gouvernement divin. Nous ne pouvons pas faire ça, nous. Vous voyez, un père de famille qui est en face de son fils qui grandit et qui demande l'héritage. Il le talonne tellement qu'il est bien obligé de le faire. Donc il lui permet. Le père de famille ne peut pas permettre en vue d'un plus grand bien. Il ne peut pas. Dieu peut. Donc chaque fois que Dieu permet, que de fait, il y a quelque chose de pénible dans notre vie ou dans la vie de ceux qui sont proches de nous. Dieu permet le péché. Dieu permet à notre France, fille aînée de l'Église, de descendre si bas. On peut lire, c'est pour un plus grand bien. Dieu permet au peuple d'Israël d'avoir été dans cette impossibilité de reconnaître le Messie. Dieu permet ça pour un plus grand bien. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et c'est dit dans l'Écriture. Alors évidemment, nous voudrions nous tout de suite voir ce plus grand bien. Ordinairement, le roc au ciel. Sur la terre, on ne voit que tous les nœuds, que toutes les fautes. C'est ça qu'on voit. Surtout aujourd'hui. On est renseigné sur le monde entier, mais on renseigne avant tout les bêtises des hommes. On ne donne jamais à la télévision un saint prêtre qui prie tous les matins. Je n'ai pas encore vu ça. Tandis que si un prêtre fait une bêtise, oh, immédiatement, ça c'est évident. Et alors on accumule les bêtises. On accumule tellement les bêtises qu'on dit que notre monde est ignoble. Comme un mal d'égout. C'est pas la vérité. Il y a encore beaucoup de saints gens, heureusement. Des quantités de saints gens. Mais ceux-là, on ne les montre pas à la télévision. C'est curieux, ça. Hein, c'est un peu satanique. C'est pas la volonté de Dieu qui fait ça. Et Dieu permet encore la télévision. Il le permet. C'est pas voulu. Il permet. Dites pas après avoir la télévision. Ah, tu as voulu, j'assiste à ça. Non, non, pas du tout. Permission de Dieu. Il le permet pour que l'homme comprenne mieux sa liberté. Et qu'est-ce que c'est qu'un amour libre? Toute cette conduite de Dieu, c'est pour qu'on comprenne beaucoup mieux ce que c'est que la liberté. J'en suis sûr. Et la responsabilité que Dieu nous donne. Donc, l'incarnation, pour saint Thomas, c'est pour réparer la faute, le mystère de la croix. Jésus meurt dans l'obéissance au Père. Et donc on peut dire, et c'est ça qui est important pour nous, et qui est capital, on peut dire que le mystère de la croix éclaire tout le mystère de l'incarnation. Il est venu pour cela. C'est l'œuvre propre du Christ, le mystère de la croix. Dieu aurait pu très bien réparer le péché autrement. Un seul acte d'obéissance du Christ à Marie, à Joseph, aurait suffi pour réparer toute la faute de l'humanité. Jésus aurait pu sauver l'humanité par son enseignement. Jésus aurait pu sauver son humanité par sa vie cachée. Jésus aurait pu sauver l'humanité par son adoration quand il était auprès de Marie. Jésus aurait pu sauver l'humanité quand il était au désert et qu'il a été tenté. Il a voulu sauver l'humanité par la croix. C'est très très important de comprendre ça. Parce qu'autrement, on aurait la mystique de l'enseignement, la mystique du désert, la mystique de la solitude, la mystique, oui, non. Il a sauvé l'humanité par la croix. La sagesse de Dieu nous est révélée à la croix. Évidemment, Dieu ne nous a pas demandé notre avis. Hein. Parce que nous, en rire, il aurait dû sauver l'humanité par son enseignement. Quand il enseignait Nicodème, il aurait sauvé tous les théologiens en premier lieu. C'est la croix. Et donc, tout le mystère de l'incarnation est vu dans la lumière de la croix. Voilà le traité de l'incarnation chez saint Thomas. Et c'est très important. Alors, un mot tout de suite. Comprenons bien cette perspective de saint Thomas. Parce qu'elle n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Alors on peut dire, saint Thomas s'est trompé, le progrès théologique est tel dans l'Église que saint Thomas, c'était bon au Moyen-Âge. C'était l'âge des grandes cathédrales aujourd'hui. On fait des églises souterraines, c'était l'âge des cathédrales. Tandis qu'aujourd'hui on fait des églises souterraines, ou on fait des églises, je ne sais pas quoi. La cathédrale d'Évry. Venez, voilà l'Église. Donc la théologie doit être comme la cathédrale d'Évry. Donc on devrait faire, ça a été dit, c'est pour ça que je vous le dis, on devrait faire une théologie en se servant de Freud, en se servant de Marx, en se servant de Nietzsche, en se servant d'Hegel. Le protestantisme l'a fait, le protestantisme allemand. Il y a des théories, il y a des théologies allemandes de ce siècle qui sont de cette manière-là. Et on fait une théologie du Christ dans la lumière de Hegel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'homme. Et on veut découvrir dans l'homme Dieu. Saint Thomas commence par Dieu pour voir comment Dieu porte l'homme. Vous voyez, c'est très très important de comprendre ça. La théologie part de la foi. La foi me donne un regard divin sur l'homme. Sur le monde, sur le Christ, qui ne supprime pas le regard humain, mais c'est le regard divin qui est premier. La foi me permet de tout regarder dans la lumière de Dieu. C'est ça le propre du croyant. Il regarde tout dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que saint Thomas, lui, fait son traité du Christ dans la lumière du Père, dans la lumière de la très sainte Trinité. Il se demande la convenance de l'incarnation dans la sagesse de Dieu. Alors que la théologie allemande, qui influence énormément la théologie française, la théologie française n'a rien de très original. D'où provient la théologie allemande d'il y a 50 ans? Ça, j'en suis certain. J'en ai fait les preuves. Tübingen. Et Hans Kuhn. Si vous lisez Hans Kuhn, vous trouverez tout là-dedans. Comme c'est traduit en français, on peut le lire facilement. C'est une théologie à base hegelienne. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'humanité du Christ en premier lieu. La foi regarde en premier lieu le Verbe qui s'est fait chair. Jésus, pour moi, est mon Sauveur et mon Dieu. C'est ça que dit la foi. Je peux faire une apologétique pour ceux qui ne croient pas et montrer la grandeur du Christ. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, j'aime mieux dire une éthique chrétienne. Je peux, dans une perspective philosophique de l'homme, montrer que le Christ historique, tel qu'il m'est donné à travers les évangiles, et l'homme parfait. Vous ne trouverez jamais un homme aussi parfait. On a fait de Socrate à Jésus. Socrate, pour l'Antiquité, était l'homme parfait. L'homme qu'ont imité tous les grands courants philosophiques, éthiques. Jésus apparaît comme l'homme parfait. Vous ne voyez en lui aucun défaut. Or, n'importe quel autre homme, vous voyez des défauts. Tout ce qu'il a fait était fait dans l'amour. Ah, vous pouvez dire, il n'a pas été très prudent. Il n'a pas été très prudent. Il aurait dû s'allier quand même le Sanhédrin. Quand Nicodème est venu, il aurait dû mettre Nicodème dans sa poche et en faire un disciple. Ça aurait été beaucoup mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conciliation dans le Christ. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il dit ça à Pilate. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il était d'une bonté folle vis-à-vis des pauvres. Il était dur pour les pharisiens. C'est vrai, quand je regarde le Christ au point de vue historique, tout simplement dans un regard humain, je vois que c'est une physionomie étonnante. Étonnante. de miséricorde et de vérité. Et il a allié la miséricorde et la vérité. Ce que les hommes n'acceptent pas. C'est très bien de faire ça, mais c'est un regard extérieur. Et non pas de croyant. Il faut le faire, parce qu'on est des hommes. Et qu'on parle aux hommes. Et que Vatican II nous demande l'ouverture au monde. Donc il faut qu'on puisse parler de Jésus en homme. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis croyant. Et je parle des croyants. À ce moment-là, je ne parle pas de Jésus en homme, mais je parle de Jésus en croyant. Parce que Jésus est donné en premier lieu au peuple d'Israël qui croit. Et c'est pour ça qu'il est donné en premier lieu au peuple d'Israël. Il a été donné en premier lieu à Marie, à Joseph. Il a été donné en premier lieu aux apôtres qui croyaient en lui. Et Jésus est ressuscité pour ses apôtres, pour ceux qui croyaient en lui. Il n'est pas ressuscité pour donner un argument apologétique, pas du tout. S'il était ressuscité pour donner un argument apologétique, il serait apparu à Pilate. La nuit, il aurait secoué son lit. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de lâche? Il serait apparu au grand prêtre. Disparaissez. Qu'est-ce que vous faites là? Non, pas du tout. Jésus est ressuscité en douceur pour les apôtres. Oui, on critique souvent en disant, mais pourquoi peut-être pas apparu à tous? Parce que Jésus veut maintenir la foi. Jésus n'a pas fait une apologétique. Ça, c'est les disciples de Christ qui ont fait une apologétique. Et dans notre monde d'aujourd'hui, nous sentons très bien que l'apologétique n'a plus tellement de force. On cherche la vérité. Alors voyez bien, les deux démarches, la démarche moderne n'est plus théologique, elle est apologétique. On parle en homme, en philosophe du Christ. C'est très bien, je ne la nie pas.
Les hérésies.
par rapport au mystère du Christ, a précisé que le mystère de l'incarnation, c'est le mystère de l'union hypostatique de la nature divine avec la nature humaine. Troisième langage. Et ce sont des affirmations qui sont semblables, qui sont les mêmes. Et comme le Verbe est devenu chair, c'est dans Saint Jean, c'est l'ultime révélation, c'est toujours à cette parole qu'il faut venir. N'oubliez pas que la démarche du théologien, c'est d'essayer d'aller le plus loin possible dans la vérité de la révélation. Donc le théologien réfléchit avec l'Église, il met toute son intelligence au service de la parole de Dieu, mais s'il revient toujours au texte de l'Écriture. Le texte de l'Écriture est plus fort que toutes les conclusions scientifiques du théologien. Ça, c'est très très important pour ne pas perdre la foi en faisant de la théologie. Parce que, hélas, c'était la constatation qu'on fait. Comment se fait-il que des théologiens qui mettent toute leur intelligence au service de la parole de Dieu ont quelquefois une foi qui critique et qui est beaucoup moins forte que la foi toute simple d'une bonne chrétienne bretonne qui prie au coin du feu et à l'église? C'était la constatation qu'on faisait chez les dominicains. Comment se fait-il que les novices qui arrivent et qui prient avec tant de ferveur, après 4 années, 5 ans, 6 ans d'études philosophiques et théologiques, n'ont plus la même vigueur de foi? Parce que, progressivement, ils ont cru plus en leur intelligence que dans le mystère de la foi. C'est un fait. Et au terme, on a Hegel. J'ai plus besoin de la foi, j'ai mon intelligence. Elle est parfaite. Je peux dire tout ce que Dieu a dit. Je me mets à la place de Dieu. Alors je comprends la parole de Jésus. Je te rends grâce d'avoir révélé ces choses aux petits. Et non pas aux sages et aux prudents. Parce que ces sages et prudents ont perdu la foi. Et cependant, on doit faire de la théologie. Et c'est grand. C'est ce qu'il y a de plus grand. Alors, entrons dans le mystère de l'incarnation. L'Église nous dit mystère de l'union hypostatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, dans sa sagesse, a voulu que la nature divine, qui de fait existe dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint, une seule nature divine, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il faut l'affirmer avec force. La Trinité ne nous dit pas qu'il y a trois dieux. Il y a un seul Dieu, absolument simple. Et que ce Dieu, il y a cette fécondité d'amour, cette fécondité de lumière. Trois personnes. Alors vous voyez, c'est déjà pas commode, hein? C'est déjà pas commode pour notre pauvre intelligence humaine de distinguer ce que représente personne. Et nature. Une seule nature en Dieu et trois personnes. Alors, pour bien comprendre ça, et c'est capital, hein, de tout ce qu'on va dire après dépend de ça, il faut comprendre avec précision qu'est-ce que c'est que la nature. Si je parle de nature divine, je parle de nature humaine. distinction que je fais entre ma nature et ma personne. Je fais appel là, vous voyez, à des connaissances philosophiques. Ça, c'est sûr. Et je vois que quand je prends ces connaissances dans des sens qui ne sont pas justes et que je les transpose en Dieu, je suis tout proche des récits. Qu'est-ce que c'est que la nature humaine? La nature humaine, à la différence de la nature du chien. La nature humaine, c'est l'âme spirituelle liée au corps. À un corps dans une union substantielle. Ah, de nouveau, substance. Et ces expressions sont très très importantes à comprendre. L'union substantielle du corps et de l'âme. Et la nature humaine implique ces trois. La nature humaine, elle est commune. Nous avons tous la même nature humaine. Grâce à Dieu. C'est pour ça qu'on peut se parler. Alors j'ai mon langage, vous avez le vôtre, mais au bout d'un certain temps, on arrive à se comprendre. Le langage qui fait le lien entre les hommes. La communication, comme on dit aujourd'hui, qui me permet de dire ce que je pense, et que vous le recevez, et que si vous ne le comprenez pas, vous pouvez me dire, Père, qu'est-ce que vous voulez dire là? C'est tout. La nature humaine. La nature humaine implique le corps et l'âme spirituelle. L'âme spirituelle qui implique l'intelligence, qui implique la volonté. Le cœur. Qui implique l'imagination, qui implique les sensations, grâce au corps. Mais il y a une âme spirituelle. Et cette âme spirituelle, elle est ouverte à l'infini. La nature humaine a en elle une capacité infinie. Donc, la nature, c'est le principe par quoi un être est constitué. Il est constitué homme, il est constitué cheval, il est constitué vache. La vache de sa nature. Et ça, au point de vue scientifique, aujourd'hui, on est bien obligé de reconnaître qu'il y a une unité spécifique dans tous ceux qui ont la même nature. Unité spécifique, caractéristique. L'homme est caractérisé parce qu'il est capable de rire. Ça reste vrai, ça. Un singe ne rit pas. Une poule ne rit pas. Faites-le rire. Elle rit pas. Le propre de l'homme, c'est être capable de rire. C'est très bête, hein. C'est très simple, mais il fallait le trouver quand même. Le petit enfant, qu'est-ce qu'on fait en premier lieu? Avant qu'il parle, il sourit. C'est merveilleux. Et le sourire de l'enfant, ça bat tout. Un enfant qui rit, c'est extraordinaire. Et le sourire d'un homme très intelligent. Quand vous êtes en face d'un homme très intelligent, faites-le rire, sourire, pas gros rire. Hein. Le petit sourire, c'est extraordinaire. C'est une langue internationale. C'est ça l'œcuménisme de l'humanité. Si tout le monde souriait, parce que ce serait agréable. Hein, c'est... Oh là là, ça ferait quelque chose. Parce que l'homme pleure, mais le chien pleure. Oui, j'ai dû entendre ça. Parce qu'il est intelligent, ce chien. Il pleure quand je m'absente. Oh, c'est une intelligence remarquable. Oui, s'il sourit, le chien ne sourit pas. Oui, ce qui caractérise une nature, c'est de saisir son caractère spécifique. L'homme est capable de parler. L'homme est capable de penser. Et il pense et il est dans sa pensée. Cogito ergo sum. Ah, voilà pour Descartes. Je cogite, donc je suis un homme, Aristote disait. Et c'est très beau, ça. Il avait découvert ça, parce que qu'est-ce qui caractérise la sculpture grecque de la sculpture égyptienne? Les Égyptiens souriaient très peu, et dans leur sculpture, jamais. C'est hiératique. Quand on va au musée d'Athènes, il faut regarder ça, c'est extraordinaire. Le passage de la sculpture égyptienne à la sculpture grecque, on voit le sourire. Et dès qu'on voit le sourire, on sculpte l'enfant. Parce que le sourire est lié à l'enfant, et le sourire est lié au vieillard, et le sourire est lié au sage. Un homme qui ne sourit plus, ça va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors, la nature et la personne, vous comprenez, la nature, nous avons une nature commune, et chacun d'entre nous, nous sommes une personne distincte. Nous distinguons par notre personne. La personne, c'est le tout. Tandis que la nature, elle est individuée. Chacun d'entre nous. Elle est particulière. Et la personne implique l'individuation. C'est le tout, la personne. On s'est fait une personne. Tandis que je ne me dis pas que je me suis fait ma nature. Oh, pas du tout. Je l'ai reçu, ma nature. Quelquefois, on peut rêver d'être un ange. Ça n'arrivera jamais. Un ange ne sourit pas non plus. Dieu sourit. Parce qu'il est le créateur du sourire de l'homme. Alors il sourit. Le Père sourit. Et le Fils sourit. Et pas l'ange. Très sérieux l'ange. Puisqu'il est très très intelligent, très très sérieux. Il a du cœur, mais très sérieux. Ne demandez pas à votre ange gardien de vous sourire tous les matins. La nature divine. Ah, la nature divine. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est l'être premier. Pas de distinction en Dieu. Pas de matière. Il n'est qu'esprit. Dieu est esprit. C'est dit dans l'évangile. À la Samaritaine, Dieu est esprit. Dieu est absolument simple. Aucune composition. Dieu est. Il est. Je suis. Je suis celui qui est. Dieu est. Et en Dieu, je distingue. Comprenez bien, je ne sépare pas. Je distingue sa nature et sa personne. Puisque je dis trois personnes et une nature. Alors là, je tombe dans le mystère. Je vois que c'est pas contradictoire, parce que la nature de Dieu est infinie. Si la nature de Dieu n'était pas infinie, ce serait contradictoire. Je peux pas, moi, voyez, avoir trois personnes dans ma nature humaine. Même des jumeaux. Ils sont très proches. Mais c'est quand même. Chaque nature a sa personne. En Dieu. Parce que la nature en Dieu est infinie. Infiniment bonne. Infiniment sage. Il peut y avoir cette distinction. Mais ça, c'est la foi qui me dit ça. On sait très bien que Dieu a d'abord révélé son unité, le monothéisme. Il a annoncé d'une manière mystérieuse qu'il était trois. Abraham, les trois et un. Mais c'est très lointain. Et c'est Jésus qui a annoncé le mystère de son Père. Fils bien aimé du Père. Et ça a été une révélation telle, parce qu'ils étaient habitués au monothéisme. Ils ont dit, c'est un blasphème. Dieu ne peut pas être un homme. On comprend très bien le scandale. Je vous dis, ce scandale existe encore. Merleau-Ponty, qui était catholique, on ne comprenait pas. Et sa philosophie. philosophie l'a conduit à dire non, c'est impossible. C'est pour ça que c'est quand même... Et puis quand vous voyez l'islam, alors vis-à-vis de l'islam, il faut dire, nous aussi, nous avons un seul Dieu, dans la simplicité. Mais nous découvrons le mystère intérieur de Dieu, le mystère, le secret de Dieu. Il est Père, il est Fils, il est Esprit Saint, dans la simplicité absolue. La Trinité, loin de diviser, la Trinité nous montre l'infinie simplicité de Dieu. C'est l'infinie simplicité de Dieu. Je crois qu'on doit dire que grâce au mystère de la révélation, nous allons plus loin dans la simplicité de Dieu que le philosophe. Et donc, nous intégrons à une unité encore plus parfaite. Et grâce au mystère d'incarnation, nous comprenons ce secret du Père, du Fils et de l'Esprit. Donc, le mystère de l'incarnation, c'est la nature divine réalisée, qui est dans le Verbe, qui va assumer la nature humaine. Et qui va assumer cette nature humaine dans son individualité, qui va assumer cette nature humaine en Marie, pour que le mystère de l'incarnation aille jusqu'au bout. Dieu demande à une femme d'être mère de Dieu. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que Dieu aurait pu, il aurait pu créer un nouvel homme de toutes pièces, adulte, descendu du ciel, pas en parachute, descendu du ciel. Et il aurait dit, je suis fils de Dieu. La révélation de Daniel, je suis fils de l'homme, je suis Dieu. Et marqué qu'il ne serait plus fils de l'homme, il aurait été homme. Et Jésus a voulu être fils de la femme. Alors, essayons, non pas de comprendre, le mystère demeure. Le Verbe de Dieu est une personne infinie. L'infini de la nature existe dans l'infini des personnes. Trois personnes infinies. Trois personnes souverainement bonnes qui sont Dieu. Cette personne assume la nature humaine dans son individualité parfaite. Cette personne assume la nature humaine en Marie, dans la maternité divine de Marie. Et cette maternité divine de Marie se réalise d'une manière miraculeuse. Puisque c'est Dieu, l'Esprit Saint, qui féconde Marie pour qu'elle soit mère de cette nature humaine du Christ qui subsiste dans le Verbe de Dieu. Alors c'est là où il faut bien préciser, je crois que c'est l'heure. Encore quelques minutes. Alors vous tapez, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils arrivent en retard quand même. Parce que c'est plus important que le cours. C'est vrai, l'Eucharistie. Alors, comprenons bien. On va préciser maintenant. Alors, il y aura toute une série. Si vraiment on veut essayer d'entrer plus profondément dans le mystère de l'incarnation. Je peux évidemment dire, oh tout ça, c'est le patrimoine de l'Église. Et je résume comment progressivement l'Église a compris ça, et saint Thomas fait ça admirablement. Mais ça c'est difficile hein, dans saint Thomas. Si vous lisez le mystère de l'incarnation dans saint Thomas, il me donne 5 minutes et puis... C'est un peu rapide, vous savez, du tout. Je m'arrête pas en puissance. regardez à travers toute l'écriture, vous voyez que toujours le Sauveur est promis. À tel point que ce Messie, selon toute une tradition dans l'Ancien Testament, sera considéré comme le libérateur du peuple d'Israël. Et c'est vrai, il y a des textes qui semblent bien indiquer qu'il sera un libérateur merveilleux. Quand vous voyez dans Isaïe les promesses de celui qui doit venir, la Vierge enfantera. Elle enfantera le Sauveur. Elle enfantera celui qui viendra. Et quand vous entendez le vieillard Siméon, gloire d'Israël, voilà le petit qui est arrivé, le Messie, gloire d'Israël, lumière des nations. Donc, une vision du Messie glorieuse, triomphale ou triomphante. Le Messie, c'est celui qui vient libérer son peuple. Alors, s'il vient libérer son peuple, il vient le libérer de tous les jougs extérieur, temporel, politique, pour lui redonner sa liberté, pour en faire la nation la plus grande qui soit, la plus parfaite qui soit. Et à côté de cette tradition, il y a une autre tradition. Dans Isaïe, le serviteur douloureux. Le serviteur condamné à mort, comme une bouche, comme un mouton qu'on conduit à l'abattoir. Il y a toute cette tradition de l'agneau. Faut pas oublier ça, c'est très très important, vous voyez. Parce que si de fait, dans la théologie, vous retrouvez ces deux traditions, elles existaient. Il y a la tradition du Christ qui vient apporter au peuple d'Israël la gloire terrestre. Et la tradition beaucoup plus intérieure du Messie qui est l'agneau, qui porte l'iniquité du monde. Alors ça donne toute sa force au témoignage de Jean-Baptiste. Voici l'agneau qui porte l'iniquité du monde. Jean-Baptiste se met tout de suite dans la tradition intérieur du serviteur douloureux qui vient porter pour tous les hommes, pour tous les pécheurs, tous les péchés des hommes et réparer. De fait, c'est pour ça que le Christ s'appelle toujours le Fils de l'homme. C'est la révélation de Daniel. Prophète Daniel, pour ne pas dire Messie, ce serait équivoque. Alors il reprend exprès cette expression au Fils de l'homme. Saint Thomas donc se pose la question, dans la lumière de la révélation, on doit dire que le Christ vient pour sauver les hommes. Il se pose donc la question, si les hommes n'avaient pas péché, est-ce que le mystère de l'incarnation aurait existé? Voilà la grande question, hein, qui a été reprise après de multiples manières, que saint Thomas pose. Si l'homme n'avait pas péché, est-ce que le mystère de l'incarnation aurait existé? Et saint Thomas répond, dans la lumière de la révélation, nous devons dire que le Christ est venu pour réparer la faute. Quand a condamné ceux qui disent que le Christ serait venu même s'il n'y avait pas la faute, cet homme a dit, ce n'est pas très probable, mais on ne peut rien dire. C'est très respectueux, vous voyez, c'est intéressant du reste. aussi beaucoup plus les disciples de saint Thomas qui sont beaucoup moins respectueux. Et saint Thomas est un très grand respect de matière que de fait. En raison de la bonté de Dieu, on peut très bien dire oui. Dieu aurait pu terminer la création par ce chef-d'œuvre de l'incarnation. Mais étant donné la révélation, on doit dire pratiquement que le Christ est venu comme sauveur. Et alors c'est à partir de là qu'il montre qu'il est venu comme sauveur pour réparer en premier lieu la faute première, le péché originel. Ce péché qui touche toute l'humanité. Et pour porter toutes les fautes personnelles, il est venu pour satisfaire, réparer. Et il est venu pour réaliser une nouvelle alliance d'amour, plus parfaite que la première. Parce que toujours, quand Dieu permet une bêtise, une faute, Dieu la permet pour un plus grand bien. C'est ça que nous avons beaucoup de peine à comprendre. Alors là, pour saint Thomas, c'est, j'allais dire, un principe général du gouvernement divin. Nous ne pouvons pas faire ça, nous. Vous voyez, un père de famille qui est en face de son fils qui grandit et qui demande l'héritage. Il talonne tellement qu'il vient obligé de le faire. Donc il lui permet. Le père de famille ne peut pas permettre en vue d'un plus grand bien. Il ne peut pas. Dieu peut. Donc chaque fois que Dieu permet que de fait, il y a quelque chose de pénible dans notre vie ou dans la vie de ceux qui sont proches de nous. Dieu permet le péché. Dieu permet à notre France, fille aînée de l'Église, de descendre si bas. On peut lire, c'est pour un plus grand bien. Dieu permet au peuple d'Israël d'avoir été dans cette impossibilité de reconnaître le Messie. Dieu permet ça pour un plus grand bien. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et c'est dit dans l'Écriture. Alors évidemment, nous voudrions-nous tout de suite voir ce plus grand bien. Ordinairement, on le verra qu'au ciel. Sur la terre, on ne voit que tous les nœuds, que toutes les fautes. C'est ça qu'on voit. Surtout aujourd'hui, on est renseigné sur le monde entier, mais on renseigne avant tout les bêtises des hommes. On ne donne jamais à la télévision un saint prêtre qui prie tous les matins. Je n'ai pas encore vu ça. Tandis que si un prêtre fait une bêtise, oh, immédiatement, ça c'est évident. Et alors on accumule les bêtises. On accumule tellement les bêtises qu'on dit que notre monde est ignoble. Et on en a un dégoût. C'est pas la vérité. Il y a encore beaucoup de saints gens, heureusement. Des quantités de saints gens. Mais ceux-là, on ne les montre pas à la télévision. C'est curieux, ça. Hein, c'est un peu satanique. C'est pas la volonté de Dieu qui fait ça. Et Dieu permet là encore la télévision. Il le permet. C'est pas voulu. Il permet. Dites pas après avoir la télévision, ah tu as voulu que j'assiste à ça. Non, non, pas du tout. Permission de Dieu. Il le permet pour que l'homme comprenne mieux sa liberté. Et qu'est-ce que c'est qu'un amour libre? Toute cette conduite de Dieu, c'est pour qu'on comprenne beaucoup mieux ce que c'est que la liberté. J'en suis sûr. Et la responsabilité que Dieu nous donne. Donc, l'incarnation... Pour saint Thomas, c'est pour réparer la faute, le mystère de la croix. Jésus meurt dans l'obéissance au Père. Et donc on peut dire, et c'est ça qui est important pour nous, qui est capital, que le mystère de la croix éclaire tout le mystère de l'incarnation. Il est venu pour cela. C'est l'œuvre propre du Christ, le mystère de la croix. Tu aurais pu très bien réparer le péché autrement. Un seul acte d'obéissance du Christ à Marie, à Joseph, aurait suffi pour réparer toute la faute de l'humanité. Jésus aurait pu sauver l'humanité par son enseignement. Jésus aurait pu sauver son humanité par sa vie cachée. Jésus aurait pu sauver l'humanité par son adoration quand il était auprès de Marie. Jésus aurait pu sauver l'humanité quand il était au désert et qu'il a été tenté. Il a voulu sauver l'humanité par la croix. C'est très très important de comprendre ça. Parce qu'autrement, on aurait la mystique de l'enseignement, la mystique du désert, la mystique de la solitude, la mystique, oui. Non. Il a sauvé l'humanité par la croix. La sagesse de Dieu nous est révélée à la croix. Évidemment, Dieu ne nous a pas demandé notre avis. Parce que nous, il aurait dû sauver l'humanité par son enseignement. Quand il enseignait Nicodème, il aurait sauvé tous les théologiens en premier lieu. C'est la croix. Et donc, tout le mystère de l'incarnation est vu dans la lumière de la croix. Voilà le traité de l'incarnation chez saint Thomas. Et c'est très important. Alors, un mot tout de suite. Comprenons bien cette perspective de saint Thomas. Parce qu'elle n'est pas du tout celle d'aujourd'hui. Alors on peut dire saint Thomas s'est trompé, le progrès théologique est tel dans l'Église que saint Thomas, c'était bon au Moyen-Âge. C'était l'âge des grandes cathédrales aujourd'hui. On fait des églises souterraines, c'était l'âge des cathédrales. Tandis qu'aujourd'hui on fait des églises souterraines, ou on fait des églises, je ne sais pas quoi. Cathédrale d'Évry. Venez, voilà l'Église. Donc la théologie doit être comme la cathédrale d'Évry. Donc on devrait faire, ça a été dit, c'est pour ça que je vous le dis, on devrait faire une théologie en se servant de Freud, en se servant de Marx, en se servant de Nietzsche, en se servant d'Hegel. Le protestantisme l'a fait, le protestantisme allemand. Il y a des théories, il y a des théologies allemandes de ce siècle qui sont de cette manière-là. Et on fait une théologie du Christ dans la lumière de Hegel. Alors qu'est-ce qu'on fait? On regarde l'homme et on veut découvrir dans l'homme Dieu. Saint Thomas commence par Dieu pour voir comment Dieu porte l'homme. Vous voyez, c'est très très important de comprendre ça. La théologie part de la foi. La foi me donne un regard divin sur l'homme, sur le monde, sur le Christ. Qui ne supprime pas le regard humain. Mais c'est le regard divin qui est premier. La foi me permet de tout regarder dans la lumière de Dieu. C'est ça le propre du croyant. Il regarde tout dans la lumière de la sagesse de Dieu. Et c'est pour ça que saint Thomas, lui, fait son traité du Christ dans la lumière du Père. Dans la lumière de la très sainte Trinité. Il se demande la convenance de l'incarnation dans la sagesse de Dieu. Alors que la théologie allemande, qui influence énormément la théologie française n'a rien de très original. D'où provient la théologie allemande d'il y a 50 ans? Ça, j'en suis certain. J'en ai fait l'épreuve. Du Bitcoin. Et Hans Kuhn. Si vous lisez Hans Kuhn, vous trouverez tout là-dedans. Comme c'est traduit en français, on peut le lire. Facilement. C'est une théologie à base hegelienne. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On regarde l'humanité du Christ en premier lieu. La foi regarde en premier lieu le Verbe qui s'est fait chair. Jésus, pour moi, est mon Sauveur et mon Dieu. C'est ça que dit la foi. Je peux faire une apologétique pour ceux qui ne croient pas et montrer la grandeur du Christ. Je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, j'aime mieux dire une éthique chrétienne. Je peux, dans une perspective philosophique de l'homme, montrer que le Christ historique, tel qu'il m'est donné à travers les évangiles, est l'homme parfait. Vous ne trouverez jamais un homme aussi parfait. On a fait de Socrate à Jésus. Socrate, pour l'Antiquité, était l'homme parfait. L'homme qu'ont imité tous les grands courants philosophiques, éthiques. Jésus apparaît comme l'homme parfait. Vous ne voyez en lui aucun défaut. Or, n'importe quel autre homme, vous voyez des défauts. Tout ce qu'il a fait était fait dans l'amour. Ah, vous pouvez dire, il n'a pas été très prudent. Il n'a pas été très prudent. Il aurait dû s'allier quand même le Sanhédrin. Quand Nicodème est venu, il aurait dû mettre Nicodème dans sa poche et en faire un disciple. Ça aurait été beaucoup mieux. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de conciliation dans le Christ. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il dit ça à Pilate. Je suis venu rendre témoignage à la vérité. Il était d'une bonté folle vis-à-vis des pauvres. Il était dur pour les pharisiens. C'est vrai, quand je regarde le Christ au point de vue historique, tout simplement dans un regard humain, je vois que c'est une physionomie étonnante, de miséricorde et de vérité. Et il a allié la miséricorde et la vérité, ce que les hommes n'acceptent pas. C'est très bien de faire ça, mais c'est un regard extérieur et non pas de croyant. Il faut le faire, parce qu'on est des hommes, et qu'on parle aux hommes, et que Vatican II nous demande l'ouverture au monde. Donc il faut qu'on puisse parler de Jésus en homme. Je suis tout à fait d'accord. Mais je suis croyant, et je parle à des croyants. À ce moment-là, je ne parle pas de Jésus en homme, mais je parle de Jésus en croyant. Parce que Jésus est donné en premier lieu au peuple d'Israël qui croit. Et c'est pour ça qu'il est donné en premier lieu au peuple d'Israël. Il a été donné en premier lieu à Marie, à Joseph. Il a été donné en premier lieu aux apôtres qui croyaient en lui. Et Jésus est ressuscité. Pour ses apôtres, pour ceux qui croyaient en lui. Il n'est pas ressuscité pour donner un argument apologétique, pas du tout. S'il était ressuscité pour donner un argument apologétique, il serait apparu à Pilate. La nuit, il aurait secoué son lit. Qu'est-ce que tu as fait, espèce de lâche ? Il serait apparu au grand prêtre. Disparaissez, qu'est-ce que vous faites là ? Jésus est ressuscité en douceur pour les apôtres. Oui, on critique souvent en disant, mais pourquoi peut-être pas apparu à tous ? Parce que Jésus veut maintenir la foi. Jésus n'a pas fait une apologétique. Ça, c'est les disciples du Christ qui ont fait une apologétique. Et dans notre monde d'aujourd'hui, nous sentons très bien que l'apologétique,